Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des Entreprises et des Professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans le goût d'entreprendre. Il faut savoir qu'un logement sur deux en France est concerné par des problèmes d'humidité, un fléau qui peut rimer avec beaucoup de maladies. William Cognard est à la tête d'Humidistop, société installée à Blagnac, près de Toulouse, 8 agences en France, et il a inventé un procédé pour lutter contre ce phénomène d'humidité. 85% des asthmes, des bronchites et des rhinites seraient imputables à une humidité trop importante dans les habitations, selon une étude récente de l'Institut Pasteur. C'est donc un problème qu'il ne faut pas prendre à la légère. Bonjour William Cognard.
Bonjour.
Votre entreprise s'appelle Humidistop.
C'est exact,
Humidistop. Alors, Humidistop, quelle solution proposez-vous ?
Alors, Humidistop est une société spécialisée dans le traitement de l'humidité dans les bâtiments, aussi bien récents qu'anciens, et tout dépend des pathologies d'humidité qu'on trouve dans les bâtiments. On a différentes solutions, aussi bien sur des pathologies de ventilation que des pathologies de remontée capillaire. Alors, pour traduire, c'est de l'humidité dans les murs qui touche principalement les bâtiments anciens.
D'accord. Alors, pourquoi vous parlez de pathologie ? Vous êtes médecin ?
Alors oui, l'humidité, on peut le considérer comme une... ce sont des vraies pathologies. L'humidité dans un logement, c'est pas normal. Aujourd'hui, il y a 4 grandes familles en humidité, il faut le savoir. Vous avez la première, c'est la remontée capillaire. Alors, pour traduire, c'est pas les cheveux, même s'il commence à m'en manquer un peu. C'est l'humidité dans les murs, qui touche principalement tous les bâtiments anciens, tous les bâtiments, on va prendre les bâtiments publics aussi, on prend les églises, on prend différentes, les vieilles mairies, les églises, etc., tous les bâtiments particuliers avant 1959.
D'accord, donc là l'humidité en fait vient du sol, tout remonte.
Elle remonte parce qu'il n'y a pas de vide sanitaire, donc automatiquement les murs sont en contact directement avec le sol et donc cette humidité, elle remonte systématiquement dans tous ces bâtiments. La deuxième grande pathologie, et là actuellement c'est le cas, surtout avec ce qui se passe, c'est les inondations, les dégâts des eaux, etc. Là il y a énormément de problématiques dans cette typologie. La troisième, c'est les problèmes de ventilation.
Ouais, c'est ça, donc la maison ou l'appartement... pas bien
exactement
ventilé, aéré.
C'est pas bien ventilé, c'est pas bien aéré, on fait un peu n'importe quoi en termes de ventilation. Le problème, c'est que derrière, on crée des effets de... alors, je vais pas dire la marque, parce que c'est pas une marque, mais on fait des effets très... On essaye de tout fermer dans les logements, à mettre des fenêtres, on essaye de tout confiner, on met des isolations, etc.
Tout calfeutré.
Et le problème, c'est que derrière, c'est que l'humidité... l'humidité, il faut que votre maison respire, si on traduit. Et le souci, c'est que ça développe les moisissures. Et la quatrième, c'est les infiltrations. Voilà. Et je vais prendre des exemples. À Toulouse, par exemple, beaucoup de gens achètent des souplex aujourd'hui, comme à Paris, comme dans différentes villes de France. Et ce qui se passe, c'est que quand on vit dans un sous-sol, les murs sont enterrés. Ouais. Et les murs sont enterrés, dit qu'automatiquement, il y a la terre de l'autre côté. Et quand il pleut, pour plein de raisons diverses et variées, vous avez des infiltrations. Donc, il y a 4 grandes familles.
4 grandes familles. Alors, on s'aperçoit toujours qu'il y a de l'humidité dans l'air, on va dire. Est-ce qu'on le ressent ou pas ? Ou ça peut arriver qu'on ne s'en aperçoive pas ?
Alors, l'humidité dans l'air, on va parler un peu plus technique, c'est de l'hygrométrie.
Ouais.
C'est-à-dire que pour que ça soit correct chez soi, il faut être entre 45 et 55%. Exactement.
On ne le mesure pas, ça,
On ne le mesure pas. Par contre, le problème, c'est que souvent, vous le voyez. Alors, il y a plusieurs paramètres. Vous avez des moisissures autour des fenêtres, autour des ouvrants. Vous avez des moisissures dans les angles. Vous avez de la condensation sur les fenêtres. Ça, on en a beaucoup. Vous avez ce type de problématiques qui font que vous le ressentez. Et ensuite, il faut toujours se poser la bonne question. Pourquoi on a un rhume ? Pourquoi on n'arrête pas de tousser ? Pourquoi on est gêné au niveau du système respiratoire régulièrement, etc. Et souvent, c'est une cause d'humidité dans le logement.
Ou de la qualité de l'air.
Et de la qualité de l'air, parce que qui dit air humide dit problématique systématique.
C'est ça. Voilà. D'accord. Alors comment vous est venue cette envie de vous intéresser à l'humidité ? Quel est votre parcours, William ?
Alors bon, moi j'ai un parcours assez varié. Moi j'ai commencé par au tout début, si on parle scolairement, j'ai commencé par un CAP de plomberie, qui n'a rien à voir. Ouais. Et ensuite,
les tuyaux, quand même.
Dans les tuyaux, alors c'est pas dans l'humidité, c'est dans l'eau. J'ai commencé par ce type de diplôme, et ensuite je suis allé jusqu'à les licences, bac pro, BTS, licence, etc. Mais hors technique. Partie commerciale.
Uh-huh.
Donc, partie commerciale. Et si vous voulez, dans ma carrière, depuis le début, j'ai eu une expérience où j'étais assez à l'aise dans le développement d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour différents groupes. Je vais en citer un ou deux, comme ça va vous parler tout de suite. J'ai ouvert une trentaine de magasins Biocoop dans le sud-ouest.
Mm-hmm.
J'ai travaillé pour ITM, pour rester un peu plus généraliste, donc Intermarché, etc., où je sauvais des VT pour les passer en Kaby, etc. Bon, pour rester un peu sommaire. Et si vous voulez, un jour, on a eu quelqu'un qui nous a contacté pour l'aider à développer sa société dans l'humidité, tout simplement.
D'accord.
Voilà, ça s'est fait comme ça. Pour plein de raisons techniques, on n'a pas été dans ce projet. Et on s'est dit, c'est vrai, je me suis intéressé au marché de l'humidité à ce moment-là.
D'accord.
Il y a 8 ans. On s'est intéressé il y a 8 ans à ce marché-là et on s'est dit, mais il y a un vrai problème. Il y a un gros problème. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire qu'il y avait un peu toutes les versions. Avec beaucoup de gentillesse pour les artisans, quand je vais dire ça, vous avez le maçon du coin qui va vous dire il faut mettre du ciment. Vous avez l'autre qui va vous dire il faut mettre ça. Vous avez un autre qui va vous dire il faut mettre ça. Et il n'y a aucun cadre. Rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a aucune formation au niveau des artisans. Donc ça, c'est un premier problème. L'humidité, ça n'existe pas.
Il n'y a pas de normes.
Il y a des normes, mais des normes qui sont assez dépassées. Quand on annonce, par exemple, qu'il faut mettre une VMC, donc une ventilation mécanique contrôlée, dans les pièces d'eau obligatoires depuis 1982, c'est très limité. C'est-à-dire que derrière, on parle de 1982, on est en 2018, quoi. Donc, il y a un petit peu de décalage. Et c'est vrai que les pouvoirs publics, là-dessus, sont très, très limités à ce jour. C'est-à-dire que...
Ah, il y a un vide, là.
Ah, il y a un vrai vide. Personne, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de... C'est un peu chacun met sa sauce, c'est un peu chacun met sa sauce et chacun a des versions. Et donc, nous, notre objectif, quand on a monté Humidistop il y a 8 ans, c'était d'informer le grand public de tous ces problèmes d'humidité qui ne sont absolument pas anodins, et de développer des techniques évoluées pour pouvoir traiter l'humidité. C'est un peu comme votre smartphone, votre téléphone portable. Il y a 15 ans, vous prenez votre téléphone portable, c'était horrible, c'était un énorme truc, vous ne pouviez rien faire dessus, c'est des grosses touches. Aujourd'hui, vous avez votre téléphone portable, vous êtes collé à 80% de la journée sur le téléphone portable, vous regardez, vous êtes sur Internet, vous regardez tout. Mais oui, on est tous pareils, moi le premier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et après, surtout, quand on a lancé cette activité, on s'est posé trois questions. On s'est dit, la première, c'est un logement humide. Déjà, c'est des problèmes de maladies respiratoires, etc., qui sont très sérieuses. Qui sont très sérieuses et qui sont avérées.
Ce qu'on appelle l'insalubrité aussi.
L'insalubrité des logements.
C'est un vrai problème.
Exactement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui dit logement humide ou bâtiment humide, essayez de rénover un bâtiment humide. Ça va vous coûter une fortune. Ça va vous coûter une fortune pour une raison toute simple, c'est que vous n'allez pas rénover du tout comme il faut. Donc, parce que vous allez mettre une peinture sur un mur humide, ça ne va jamais tenir, vous allez recommencer dans 6 mois, etc., etc. Et le troisième élément, la problématique, c'est que ça coûte cher au niveau du chauffage.
Bien sûr.
Qui dit logement humide, la plupart du temps, ce qu'on va tous faire, on va augmenter le radiateur. On va dire, on va augmenter le chauffage, on va augmenter
pour
le radiateur.
Faire sécher,
ça ne marche pas du tout.
Ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas la solution.
Non, pour une raison toute simple, c'est que plus vous allez essayer d'évaporer l'humidité qui est dans les murs, dans les bâtiments anciens, si je parle de cela, plus vous allez automatiquement développer les problèmes d'humidité. Parce que c'est de l'évaporation d'humidité. Donc plus vous allez chauffer, plus l'humidité va sortir des murs. Mais comme on n'a pas traité l'humidité à la base, si vous voulez, c'est comme un robinet qui coule. Donc ça continue et ça se développe beaucoup plus.
Et là, vous êtes arrivé. William est arrivé avec une solution magique.
On a des solutions.
Pour l'instant, on en est au constat. Mais alors, qu'est-ce que vous nous proposez concrètement? Qu'est-ce que vous développez?
Alors nous, on a développé des produits qu'on fabrique en Made in France. Sur Toulouse, plus précisément à Portée-sur-Garonne, où nous avons développé des techniques très évoluées pour inverser l'humidité dans les murs si on prend les bâtiments anciens. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut comprendre le phénomène. Un mur humide, je vais faire une petite image, comme ça, si tout le monde va bien comprendre. Vous avez un mur humide. Entre la partie humide et la partie sèche, vous avez un pôle positif au niveau du mur humide et un pôle négatif au niveau du mur sec.
On parle des ions.
Des ions, voilà. D'accord. Et si vous prenez un voltmètre et que vous le plantez en bas du mur, vous allez avoir entre 50 et 500 millivolts.
Ah oui.
Donc, on a un phénomène électrique naturel.
D'accord.
Et nous, on a inventé un appareil qui s'appelle... Je vais dire la marque, parce que c'est notre marque, donc il n'y a pas de
soucis. Allez-y, tant qu'à faire.
C'est un appareil Stop One, qui est un appareil qui est électromagnétique. Et cet appareil, si vous voulez, il est posé sur le mur humide et il va inverser la polarité des molécules d'eau. C'est-à-dire qu'on va faire l'effet contraire. On va créer un plus au niveau du mur sec et un moins au niveau du mur humide, et comme un petit peu comme une gouttelette sur le carreau. Si vous avez une petite gouttelette sur le carreau, elle va descendre par gravité, comme la condensation. Là, c'est exactement la même chose au niveau du mur. C'est-à-dire que le mur va s'assécher systématiquement parce que l'humidité qui est dans les murs va redescendre. Et on va empêcher de la faire remonter. Donc, ça prend un petit temps d'assèchement parce que ça se fait pas en 3 semaines. Ça prend quand même quelques mois, voire 1 an et demi, 2 ans, la majorité du temps. Par contre, à côté de ça, les murs sont secs, vous pouvez les refaire et vous n'avez plus de bâtiment humide.
C'est magique.
C'est magique et on équipe énormément de bâtiments publics.
C'est vrai.
Oui, des églises, etc. Ici, on en a un paquet.
Voilà. Alors, pourquoi on n'y a pas pensé avant?
Alors ça, c'est la grande question. Je dirais que il existait des systèmes à peu près similaires. Je dis pas qu'il n'existait pas. La seule différence, c'est que ce n'est pas connu du grand public. Par contre, c'est connu des collectivités.
C'est ça. D'accord.
C'est ça qui est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 95% des appels d'offres qui sont lancés pour la rénovation des bâtiments. Je parle des églises parce que c'est le contenu, mais c'est les mairies qui gèrent le budget au niveau de la rénovation des églises. Eux-mêmes demandent systématiquement que l'humidité. Ils demandent ce type de système pour que l'humidité descende. Mmh. Et c'est pour ça qu'on équipe énormément de bâtiments publics. Mais le grand public en lui-même. C'est pour ça que je suis présent un peu partout, ignorer qu'il y avait des systèmes très évolués pour pouvoir traiter ça.
On va parler d'argent tout de suite, hein. Vous allez rester avec nous pour la deuxième partie de l'émission dans un petit instant, mais ça coûte combien?
Alors, pour traiter 100 mètres carrés de maison, hein, alors après tout dépend, il faut faire un diagnostic, etc. Ouais. Il faut compter dans les 2 500 € hors taxes pour pouvoir traiter 100 mètres carrés de maison à peu près.
Moins onéreux qu'une climatisation réversible qu'on nous conseille souvent en cas de problème d'humidité.
Ouais, et c'est pas bon parce qu'une climatisation ne règle pas les problèmes d'humidité. Ouais. Vous mettez le chauffage à fond, ça sert à rien. Vous mettez la climatisation, ça sert à rien. Donc là, déjà, du tout, le diagnostic est complètement faux. Et le problème, c'est que là, on a un défaut de conseil. Et vous allez mettre une climatisation quand il fait chaud, c'est pas fantastique. Et moi-même, j'en ai une, donc il n'y a pas de problème. Par contre, pour l'humidité, j'ai pas ça.
Ça marchera pas. On va parler de votre façon aussi de travailler et de communiquer. Alors, on a bien compris qu'il n'y a pas de souci, hein, à ce niveau-là. Vous savez communiquer. Vous restez avec nous.
Ouais, avec plaisir.
À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec William Coignard de la société Humidistop, basée à côté de Toulouse à Blagnac. Bonjour Michel Dagra.
Bonjour.
Bienvenue Michel et merci de nous rejoindre. Vous êtes
plaisir.
Un de nos référents éthiques pour Radio Présence et pour le goût d'entreprendre. Première question donc à notre invité. Est-ce que l'humidité, les phénomènes d'humidité, ça pose question Michel?
Oui, enfin bon, je partirai volontiers sur une symbolique de l'affaire, parce que j'ai entendu. Je note quand même qu'il y a un effort de traiter le problème à la source. D'où vient l'humidité, si elle vient du sol, on renvoie la flotte dans le sol, c'est quand même pas mal. C'est intéressant, oui. Mais dans votre société, vous avez du personnel ou ça marche comment là? Vous avez...
On a exactement. Alors il faut savoir que à titre personnel et professionnel, moi je suis certifié de l'Institut d'expertise judiciaire de Paris. Donc ça c'est déjà un premier élément très important. Donc on a les qualifications pour pouvoir répondre
judiciaire,
à ce type de demande.
Pardon, je vous coupe, judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire,
hein? C'est-à-dire qu'on ne peut être appelé par les tribunaux. On peut être appelé pour les tribunaux pour différents problèmes d'insalubrité sur les logements, etc. Pour une raison toute simple, c'est qu'avant de proposer ce type de solution, vous ne pouvez pas acheter ce type de solution sans visite au préalable d'un diagnostic dans l'habitation.
D'accord.
C'est obligatoire. J'ai beaucoup d'appels de gens de partout dans le monde qui valent absolument mes appareils, qui valent absolument mes produits, etc. Et ils ne peuvent pas les acheter. Impossible. Même avec des très gros chèques, ils ne peuvent pas les avoir.
Ah, vous ne vous laissez pas influencer.
Non,
pas le
c'est le diagnostic qui est important. Ouais. Le diagnostic. Ouais. Il faut venir voir le logement, faire un diagnostic gratuit. Alors, je parle pour les propriétaires. Mmh. Regarder les différentes pathologies, prendre différentes mesures, aussi bien hygrométriques que hydrométriques. Alors, hydrométriques dans le mur ou dans les sols. Et donc, il y a un vrai diagnostic qui est fait, une vraie étude, et ensuite, on apporte des solutions qui sont adaptées par rapport à ça.
D'accord.
Voilà, il y a un vrai sens, voilà, vous ne pouvez pas acheter nos appareils sans ça.
Mm-hmm. Oui, c'est là que je vois, c'est pour ça que je pose un peu la question. C'est tout à fait au début, on a le sentiment que vous traitez le problème en recherchant ses causes. Et là, ce diagnostic dont vous parlez, c'est quand même un discernement sur la réalité de ce qui se passe.
Exactement. On a 14 techniciens. Alors quand je dis techniciens, c'est 14 experts au niveau du Humidistop qui couvrent la France. Ils ont tous entre 5 et 15 ans d'expérience, voire 20 ans, sur les problèmes d'humidité. Et aucun d'eux ne donne de conseils sans visite au préalable. Il faut visiter le logement et quand on a fait l'état des lieux du logement de A à Z, ensuite on apporte des solutions si elles sont applicables ou pas. Parce que tout n'est pas applicable, tout dépend un petit peu, il y a plein de caractéristiques qui rentrent en compte.
Ouais, ça dépend de l'origine, de la provenance en fait, des phénomènes.
Et souvent il y en a plusieurs.
Et c'est ça.
Souvent il y en a plusieurs. Qui dit bâtiment ancien dit l'humidité dans les murs, mais c'est aussi des problèmes de ventilation, c'est aussi des problèmes divers et variés. Et voilà. Et après à côté de ça, on est dans une sorte de conseil, voilà.
Est-ce que tout est prévu lors des nouvelles constructions? Je pense notamment au système de VMC aujourd'hui, sur les bâtiments récents et sur les maisons individuelles, on a encore ce type de problème d'humidité?
On a énormément de problèmes sur les constructions récentes, parce que déjà c'est fait à la va-vite, ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point, et ensuite de ça, on a toujours le problème de formation. C'est-à-dire que derrière, vous avez, on parle de VMC, mais... plein de gens ne savent pas exactement ce que c'est qu'une VMC. Une VMC, c'est une ventilation mécanique contrôlée, ça crée une dépression. Ça fonctionne très bien dans les pièces d'eau, mais ça ne fonctionne que dans les pièces d'eau. C'est-à-dire que quand vous douchez, l'évaporation, elle monte, extraction, on est d'accord. Vous cuisinez, c'est un peu comme la hotte de la cuisine, ouais. Extraction, il y en est d'accord, etc. Mais vous ne verrez jamais une VMC dans une maison normale, dans un salon. Vous ne verrez jamais une VMC dans une chambre, vous ne verrez jamais ça. Mmh. Et la plupart du temps, bah, on a des problèmes d'humidité dans les chambres, dans les salons, etc.
Mais tout simplement parce que voilà. Aussi on respire, nous, enfin, l'humain produit de l'eau.
C'est exactement ça. Chaque humain fait 10 litres d'eau par jour. Voilà. 10 litres d'eau par jour en termes hygrométriques. Donc, voilà. Après, ça dépend. Si quelqu'un va travailler toute la journée, il est là que le soir. Mais le même logement, vous le louez à quelqu'un d'autre qui est là toute la journée. Bah, les incidences ne sont pas du tout les mêmes, et donc on peut se retrouver avec des problèmes d'humidité qu'on n'avait pas avant. Voilà.
Et oui, tout à fait. Si la personne transpire beaucoup, alors là, c'est...
On passe à 20 litres.
Une autre question, Michel.
Voilà. Je suis impressionné par ce phénomène de l'humidité dans les murs et qui crée de la moisissure aussi bien. C'est une parabole, hein. Comment enlever la moisissure de nos vies en évitant les infiltrations qui la produisent. Enfin, ça, il y aurait donc à dire, ça serait une autre chose. Mais je reviens à la question de votre personnel. Vous avez parlé des techniciens qui aident, enfin, qui sont compétents pour faire des expertises, mais concrètement, là, sur place, vous êtes une société avec du monde, là, que vous gérez du personnel?
Ah oui, on a du monde, on a 4 personnes au niveau du bureau. Il faut savoir que moi, je suis un passionné, mais un vrai passionné, je suis réputé pour ça. Donc, il faut savoir que Toulouse et alentour, c'est moi-même en personne qui m'occupe de ça. Je garde tous les rendez-vous clients. Si on me prend la semaine prochaine, je dois avoir 26 rendez-vous clients toute la semaine, mais je m'en occupe personnellement. Pour une raison toute simple, ce qui nous intéresse, c'est la qualité, pas le quantitatif. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de traiter la base. Il est évident qu'un futur client qui a un vrai problème d'humidité et qui veut vraiment traiter le problème, là, il n'y a pas de souci, on y va sans aucun souci. Si c'est pour avoir une VMC basique que vous achetez dans une grande distribution à 150 €, etc., parce que vous n'avez pas compris le système, on va l'expliquer. Après, on ne force pas. Au bout d'un moment, si vous voulez, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Donc voilà.
Alors, vous avez beaucoup de demandes, mais vous faites aussi beaucoup de communication.
Oui, exactement.
Alors, c'est vous qui faites toute cette partie communication? On vous entend à la radio, on vous voit un peu partout?
Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que comme je suis un expert, il faut savoir qu'aujourd'hui, les médias, dans la globalité, dans les médias, aujourd'hui, il n'y a personne qui Alors, je ne dis pas qu'il y ait les compétences, je ne parlerai pas comme ça, je ne me permettrai pas, mais aujourd'hui, il faut donner des réponses aux gens. Donc, il est évident que je fais différentes émissions de radio, alors que ce soit dernièrement national, mais je fais aussi beaucoup de local. C'est-à-dire que jeudi prochain, par exemple, je fais une émission où pendant 45 minutes, j'ai des auditeurs au téléphone qui nous appellent en direct, pour poser des questions sur leurs problèmes d'humidité. Et là, je vais pouvoir les renseigner, etc. C'est très mathématique. C'est-à-dire que les problèmes, les pathologies d'humidité, que ce soit bâtiment ancien, bâtiment récent, etc., c'est toujours la même chose la plupart du temps. Donc après, c'est toujours la même chose. Il y a toujours des bases. Souvent, dans un logement, les logements ne sont pas aux normes. Donc, par exemple, en radio, par exemple, ce que je fais souvent, même en télévision il n'y a pas longtemps, j'explique les bases. Savez-vous, par exemple, que chez vous, ça c'est intéressant, chez vous, le détalonnage des portes, donc entre le bas de la porte et le sol, pour une pièce sèche, c'est 1,5 cm la norme, et 2 cm sur les pièces humides. Donc c'est-à-dire dit humide, toilette, salle de bain. Si vous le savez ça. Ça c'est compliqué. Plein de gens ne savent pas du tout.
Ouais, on va mesurer. Voilà. Tiens.
Et on va mesurer. Pareil, vous avez une VMC chez vous. Comment on fait pour vérifier si elle fonctionne? Alors des fois vous l'entendez parce que c'est un peu vieillot, etc. Bah, vous prenez un morceau de papier toilette, vous montez un petit peu en haut là, et vous mettez, si le papier toilette reste coincé, la VMC fonctionne. S'il ne reste pas coincé, bah, c'est que ça ne fonctionne pas, donc il y a un problème. Il y a plein de techniques comme ça. Comment on nettoie une moisissure aussi? Comment on fait? Plein de gens vont vous dire, je mets de la javel. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. On met pas de la javel, on met du vinaigre blanc. On asperge avec du vinaigre blanc, on laisse machin, et après on frotte. Et ça marche super bien. Et en plus, c'est totalement écolo. Voilà. Et le côté écologique, c'est très important pour nous. Voilà.
Michel.
Oui, le côté écologique, je rebondis dessus. Donc là, vous traitez au niveau de l'humidité, mais il y a un état d'esprit. vis-à-vis de cette question écologique. Donc ça ne touche pas simplement l'humidité, il y a le réchauffement climatique qui arrive, il y a des choses... Est-ce qu'il y a un impact de ces prévisions climatiques sur votre métier ?
Oui, pour une raison toute simple, c'est que malheureusement les conditions climatiques, là on parle des inondations, là, ou dans tous les médias on en parle tous les jours, aujourd'hui les inondations, bah, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui vous avez une cave inondée ou un sous-sol inondé, vous appelez votre assurance mais vous ne savez pas comment faire. Le problème c'est que derrière il faut remplir des paperasses, il faut un expert, l'expert passe, allez, je ne dis pas toutes les assurances sont comme ça, mais un mois après, vous avez déjà toutes les pathologies qui se sont développées, ça va coûter beaucoup plus cher. Et c'est ça aussi qu'on essaie de se battre, c'est-à-dire que derrière, les conditions climatiques, c'est pas à prendre à la légère. Plus il va pleuvoir, etc., plus il va y avoir des temps très humides, bah, ça va avoir une incidence sur votre logement. Sauf que n'importe qui va vous dire, bah, tiens, il pleut dehors, etc., bah, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ouvre une heure ma fenêtre tous les jours. Je vous rassure, ça sert strictement à rien. Il faut ouvrir 5 minutes, 10 minutes maximum, parce que si on a une hygrométrie très importante à l'extérieur, bah, tout rentre à l'intérieur de la maison. Donc là, il faut faire attention. Donc il y a plein de béabas où il faut faire attention.
Les vieux Toulousains, le vieux Toulouse est bâti souvent sur des caves qui faisaient fonction de vide sanitaire, finalement. Et que pensez-vous de cette solution antique et qui permettait d'assainir quand même un minimum les murs ?
Alors, ça c'est intéressant, votre question. Elle est intéressante, mais...
Merci, ça fait plaisir. Vous pouvez le redire, ça fait plaisir.
C'est super intéressant. C'est super intéressant. Les anciens avaient tout compris. C'est ça la différence. À l'époque, quand vous preniez un corps de ferme, je vais rebondir sur le corps de ferme, c'est un bon exemple. Un corps de ferme, prenez un corps de ferme. Souvent, au niveau du rez-de-chaussée, il y avait les animaux, et à l'étage, il y avait les gens. Les fenêtres, elles n'étaient pas totalement hermétiques, et donc automatiquement, on avait une évaporation naturelle qui se faisait. Bon, déjà, on a tout compris. Quand vous construisiez les églises à l'avant, n'importe quelle église, ils ne mettaient pas ça n'importe où, n'importe comment. Ils mettaient ça dans des endroits bien spécifiques, ils regardaient les nappes phréatiques, et ensuite de ça, ils regardaient aussi le champ magnétique, tout ce qui est champ magnétique, etc. etc. Et donc, on mettait des bâtiments sur des endroits bien spécifiques. Aujourd'hui, on construit n'importe comment et on construit n'importe où. Et le problème, c'est que tout ça, on ne prend plus en considération. Donc on construit sur des terrains inondables, on fait n'importe quoi. On construit sur la mer, on essaye de se mettre partout, etc. Et toutes ces études, même s'il y a des études de sol, etc., qui sont faites, ne sont plus du tout adaptées par rapport à nos anciens. Et nos anciens, c'était beaucoup plus adapté.
Je reviens aux caves toulousaines.
Oui, pour revenir sur les caves toulousaines, le sous-sol, la cave, si vous voulez, elle servait de vide sanitaire. Mais la cave en elle-même, elle est humide.
Tout à fait.
Donc la cave en elle-même, elle est humide. Mais aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, on essaie d'équiper la cave pour faire un logement, pour faire une chambre, pour faire etc. etc. Là, il faut traiter l'humidité à la source. Parce que le souci, c'est que qui dit cave dit entreposage de matériel ou habitation. Si vous entreposez du matériel dans une cave, la plupart du temps, elle va être humide. Et au niveau de l'habitation, là, c'est une catastrophe. Donc il faut traiter automatiquement. Mais c'est vrai que la cave, à la base, elle servait de vide sanitaire.
Les anciens, finalement, avaient trouvé un truc, là. C'est pas mal.
C'était pas mal.
Je pense à ma grand-mère, quand je suis dans une cave toulousaine, déguisée, enfin, reconvertie en restaurant, et qui dirait, mais Michel, il est fou, il mange dans la cave. C'était une punition à l'époque d'aller à la cave.
C'est ça, oui, il y avait plein de problématiques.
William, il faudrait en parler davantage de l'humidité dans les logements. Par exemple, quand on achète un logement, quand on établit le diagnostic à l'achat du logement, à la vente, c'est pris en compte, bien évidemment, mais non ?
Absolument pas. C'est ça le gros problème.
Voilà.
Ça, c'est un énorme problème. Vous avez les pouvoirs publics, en général, qui n'ont absolument pas pris la dimension des problématiques d'humidité. J'étais invité il n'y a pas très longtemps... pas sous une étiquette politique, c'était pour les renseigner avec des députés de La République En Marche, ici, il y a une quinzaine de jours à peu près, où j'ai parlé devant tout le monde, devant 200 personnes, et je leur ai expliqué qu'on marchait sur la tête. J'aime bien dire les choses comme je pense, donc on marchait sur la tête. Aujourd'hui, on fait 8 diagnostics obligatoires.
Ouais, c'est ça, c'est compliqué quand on achète ou quand on vend un logement.
Et l'humidité n'y est pas. Et l'humidité, vous allez en Italie, en Suisse ou différents pays autres qu'Europe, c'est obligatoire.
C'est obligatoire, ouais.
C'est obligatoire.
Vrai.
Aujourd'hui, c'est un logement sur deux qui est touché par des problèmes d'humidité. Et vous achetez un bien, vous pouvez vous retrouver avec plein de problématiques sans ça. Et donc, on marche sur la tête. Donc, il faut que le diagnostic humidité soit pris en compte dans les diagnostics. C'est pas parce qu'on met 150 € ou 200 €, on peut le faire en même temps qu'un autre truc, que les termites, par exemple, ça n'empêcherait pas. Mais pour savoir exactement l'état du bien en termes de l'humidité. Qu'est-ce qu'on en est ? Voilà. Et nous, on se bat pour ça.
Oui, ça c'est vrai qu'il faut le souligner. Vous voyez, moi je pensais vraiment qu'on prenait ça en compte avec les dépenses énergétiques, etc., qu'il y avait un lien. Et aujourd'hui, c'est pas fait. Et vous avez entendu ou pas ?
C'est très difficile parce qu'il y a des lobbies. Il y a des lobbies. Le problème, c'est que derrière, c'est au fur et à mesure des médias. Vous prenez n'importe... Vous voyez, si on prend par exemple sur la radio nationale où on est passé, il y a un vote qui est fait par les auditeurs. Et ce vote, 51% des personnes étaient d'accord avec nous. On parlait d'un logement sur deux, on était sur un logement sur deux. On marche sur la tête. On marche sur la tête, on ne met pas de diagnostic humidité, ça devrait être obligatoire. Voilà.
Et derrière cette, il y a finalement une question de vérité. Il y a un refus de reconnaître la réalité des choses. Parce que le diagnostic va porter sur la réalité de ce qui se passe. Il va mettre en évidence la réalité du défaut. Et ce refus, je suis sensible à cette... de deux choses. La première, c'est cette résistance des lobbies, finalement, qui veulent vendre leur peinture, leur produits étanches ou ce que sais-je encore. Et puis après, cette ouverture sur la réalité, ce sens du réel, finalement, reconnaître le réel. Et là, vous avez, me semble-t-il, une fonction importante. Indépendamment du business que vous faites, il y a quand même une perspective de reconnaissance de la réalité de ce qui se passe.
Et ça, c'est important. De bon sens.
Exactement.
Ouais, de souci de vérité, tout simplement, aussi.
Oui, tout à fait. Merci William. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet. On peut vous trouver facilement.
C'est www.humidistop.fr.
Et donc, vous avez des agences en France. C'est pas vous qui faites les diagnostics, par exemple, dans l'Est de la France?
Non, j'ai des techniciens dans l'Est, à Paris, etc. Par contre, c'est vrai qu'à Toulouse et alentour, c'est moi.
C'est vous. Voilà. D'accord. Merci Michel. Vous souhaitez nous joindre? C'est très simple. Écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.